Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Bondel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média au menu Média et Culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Par exemple, on a retrouvé un album de Neil Young qui devait sortir en 75, mais finalement, c'est aujourd'hui. On en parlera. Et puis une série satirique sur les projets de Donald Trump pour retourner sur la Lune. Mais là, on ne sait pas quand ce sera. Il y aura le journal des médias de Cyril Lacarrière, le journal de la culture d'Hélène Manarino avec en prime son portrait inattendu. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur Europe1.fr ou écouter les émissions de la veille. Notre info média, là c'est bien actuel, c'est l'AFP qui lance des podcasts, mais en anglais, pas tous évidemment. Ils nous diront pourquoi et comment. Nos invités ensuite, Marie-Sophie Lacaro, qui présente ce soir sur France 2 les 100 ans des comédies musicales. Belle manière de faire vivre le site d'action annulé pour cause de Covid. Enfin, Elie Semoun pour la sortie en DVD du 3e volet du film Du Cobu, réalisé cette fois par ses soins. Et vous savez quoi? Ça a cartonné. Mais on parlera également avec lui de son activité pendant le confinement. Et il y en a la boule à zéro, la visite à son père en EHPAD, l'apostrophe au ministre de la Culture et les sketchs inédits avec Franck Dubosc. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Bondel, bonjour à tous.
Cyril Lacarrière, bonjour.
Bonjour Philippe Bondel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias. Qu'avez-vous au sommaire ce matin, Cyril?
Ce matin, on s'attarde évidemment sur la crise sociale qui a largement handicapé les chaînes BFM et RMC hier. Je vous parle de la presse écrite qui ne se porte pas si mal, du New York Times qui licencie malgré des résultats exceptionnels et d'une première totalement punk bientôt sur M6.
Nos futurs, on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
Ils ont regardé The Resident qui reprend la tête des audiences avec, il y avait plus de 3 900 000 téléspectateurs devant TF1 hier soir. Ensuite, c'est un bon cauchemar en cuisine. Plus de 3 300 000 personnes étaient devant la 6.
On lui a porté chance à Etchebest.
Exactement. Ouais. Et enfin, la série Romance sur France 2 a été regardée par près de 1 800 000 personnes. Ça reste des scores assez faibles pour une série inédite sur France 2.
Culture Média.
C'est le journal des médias maintenant qui débute par la maison BFM qui a vacillé hier.
C'est la première fois que la première chaîne d'info de France se mettait ainsi en grève et pour une première, on peut clairement parler d'un coup réussi. La moitié des salariés de BFM TV ont suivi le mouvement de grève lancé au sein du groupe Altice pour protester contre le plan de restructuration qui prévoit entre 330 et 380 départs. Et toutes les antennes ont été touchées. Les locales, BFM Paris et BFM Lyon, la radio RMC, la chaîne RMC Sport, une solidarité que salue Guillaume Allier, délégué CFTC de l'intersyndicale Next Radio TV.
C'est exceptionnel ce qui s'est passé aujourd'hui. La mobilisation de tout le monde, de tous les corps de métier, du présentateur au technicien à la maquilleuse, tous les corps de métier se sont mobilisés et ont rejoint nos revendications. Et que ça a eu cet impact-là, ça va leur montrer ce qu'on peut faire s'ils ne nous écoutent pas.
Parmi les conséquences de ce mouvement social, bien sûr, des antennes fortement perturbées, mais surtout l'immixtion du politique dans les négociations. Alors que BFM devait diffuser hier le dernier débat pour les municipales à Paris, Anne Hidalgo a rapidement fait savoir qu'elle n'y participerait pas dans ces conditions. Louise Bernard, qui était hier devant l'immeuble du groupe Altice, a rencontré une journaliste de BFM Paris, par ailleurs déléguée du personnel, mais qui n'a pas souhaité donner son identité. Elle nous dit comment elle et ses collègues ont vécu ce mouvement de grève inédit.
C'est pas trop dans la culture du groupe en fait de faire grève, c'est la première fois et c'est vrai que on s'est sentis tous en fait très soudés du fait que ce soit la première fois pour beaucoup ici qu'on fait grève en fait tout simplement. Donc pour nous c'est quelque chose de très 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 nouveau. On apprend un peu en même temps que les choses se font. On était plutôt fiers de nous et on était plutôt fiers de l'impact qu'on a eu sur l'antenne et le message qu'on a pu envoyer à la direction. BFM TV a diffusé toute la journée des documentaires et du coup c'est vraiment inédit parce que pour le coup normalement c'est plutôt du direct sur le débat en lui-même. Oui, le fait que les candidates s'engagent à nos côtés et qu'elles nous promettent, enfin en tout cas pour Anne Hidalgo, de ne pas participer au débat même demain si jamais demain en Assemblée Générale après la négociation on décide qu'on repart en grève, c'est quand même un symbole très fort.
Demain, vous l'aurez compris, c'est en fait ce soir. Le débat entre Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn doit normalement se tenir ce soir donc à 21h. La direction a tendu la main hier à ses salariés pour se mettre à la table des négociations sur la base des propositions faites par l'intersyndicale. Pas question pour autant de baisser la garde. Côté salarié, on écoute à nouveau la journaliste de BFM Paris.
Si la direction décide de repousser les négociations avec les délégués syndicaux ou alors qu'ils se comportent un petit peu comme ils se sont comportés pendant les dernières semaines, c'est-à-dire un peu comme un mur, là, effectivement, on se réunira à nouveau dans la cour en Assemblée Générale pour décider si on poursuit le mouvement ou pas. De ce que j'ai ressenti là pendant l'Assemblée Générale de ce soir, c'est qu'effectivement, si la direction ne nous donne pas tout petit quelque chose, je pense qu'on est prêt à repartir en grève, quitte à ce que ça dure jusqu'à dimanche soir, jusqu'à la soirée électorale.
Alors, rendez-vous est pris ce matin pour poursuivre les négociations. On suivra bien sûr attentivement la situation.
Et si finalement la presse écrite ne se portait pas aussi mal qu'on ne le dit?
C'est bien ce qu'on pourrait croire en parcourant la toute nouvelle étude One Next publiée hier sur la consommation de la presse en France. 97% des Français, alors c'est-à-dire quasiment tout le monde, lit au moins une marque de presse. Un constat valable aussi pour les 15-24 ans, ceux dont on dit qu'ils se désintéressent de la presse. Eh bien, 85% des 15-24 ans lisent la presse en ligne. Autre élément marquant, 9 marques de presse sont lues chaque mois par plus de 20 millions de personnes, soit dans leur version papier, soit évidemment sur le numérique. Et c'est bien par le numérique que passe la croissance de l'avenir. En l'espace de 10 ans, 7 marques de presse ont gagné plus de 5 millions de lecteurs grâce au numérique.
Et alors Cyril, justement, quelles sont les marques qui se distinguent avec cette nouvelle mesure?
Sur le numérique, le Figaro écrase la concurrence avec plus de 22 millions de lecteurs. Le Quotidien est en revanche devancé par l'Équipe, Le Monde et Le Parisien quand on regarde le classement côté journaux imprimés.
Et on continuera évidemment de parler de cette nouvelle mesure des marques de presse demain matin, ici même, avec notre invité Stéphane Baudier qui est le directeur général de la CPM. On reste sur le secteur de la presse écrite avec le New York Times qui se porte très bien mais qui va tout de même procéder à des licenciements.
Oui, 68 postes au sein du New York Times vont être supprimés, c'est ce qu'a annoncé le grand patron du journal. Une décision aux conséquences de la crise sanitaire. Ces suppressions ne concernent que des emplois liés à la publicité. La rédaction du New York Times ne sera pas affectée par cette réduction d'effectifs. Si ces 68 emplois ne sont qu'une toute petite part, bien sûr, des 4500 emplois à temps plein que compte le journal, cette décision survient alors que le New York Times a récemment annoncé avoir dépassé le seuil des 6 millions d'abonnés et qu'on pouvait croire le journal à l'abri des mauvaises nouvelles. Mais toutes les conséquences du coronavirus semblent encore bel et bien devant nous.
Hélas, on termine ce journal par un acte totalement révolutionnaire à la télé.
Un film à la télé, un samedi soir. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour Nicolas de Taverneau, ça veut dire beaucoup. Le 11 juillet sera donc une date à marquer d'une croix blanche. M6 diffusera le film Le Petit Nicolas, aucun lien avec le grand Nicolas de Taverneau. Le film, lui, avec Valérie Lemercier et Kad Merad.
Et pourquoi c'est aussi important?
Eh bien c'est important, pourquoi? Figurez-vous, parce que diffuser un film le samedi soir à la télé, c'est tout simplement interdit. Cela peut paraître totalement hallucinant à l'heure de la consommation à la demande, mais c'est ainsi. La France avait depuis toujours ou presque cette disposition réglementaire qui en fait sert à protéger les salles de cinéma par rapport aux chaînes de télé. Ça fait 20 ans maintenant que Nicolas de Taverneau se battait pour tenter de faire tomber cette règle, et il est en passe d'y parvenir. Un décret va être publié dans les tout prochains jours pour permettre aux chaînes de diffuser des films à peu près quand elles le souhaitent. Et M6 avait à cœur d'être la première à dégainer. La chaîne a donc averti le CSA et le ministère de la Culture de son intention de programmer Le Petit Nicolas. Et comme personne n'a pipé mot, eh bien, M6 sera bien la première à inaugurer une toute nouvelle liberté.
Quand bien même le décret ne serait pas publié.
On imagine qu'il va être publié dans les tout prochains jours, donc certainement avant le 11 juillet, soir du Petit Nicolas sur M6.
Voilà, on sent la science du rapport de force. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. À demain pour un nouveau journal des médias.
À suivre l'infomédia du jour avec au programme l'AFP, l'agence France Presse, qui présente son premier podcast. On en parle avec notre invité dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est l'heure Philippe de l'infomédia du jour.
L'AFP, l'agence France Presse, se lance dans le podcast. Enfin, vous allez me dire, il manquait plus que. Pas si évident pour une agence d'information dont les clients sont des médias et non pas des particuliers. Mais avec un réseau de journalistes déployés sur 151 pays, l'AFP couvre l'actualité en 6 langues, en texte, en photo, en vidéo et donc maintenant en audio. Son podcast hebdomadaire s'appelle 2020 et le dernier épisode est justement l'épisode 20, ça veut dire 20 en français. Pour en parler, nous sommes avec Laurent Nicolas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable marketing en charge des contenus audio à l'AFP. D'abord, pourquoi se lancer dans un tel format et pourquoi seulement maintenant?
Se lancer dans l'audio, ça paraissait assez évident parce que le marché de l'audio explose. Les usages sont vraiment hyper croissant sur toutes les plateformes de consommation d'audio, que ce soit sur les applications de podcast, que ce soit sur les sites médias.
Ouais.
L'AFP étant l'AFP, étant un acteur majeur de l'industrie des médias en France, on ne pouvait pas passer à côté de la tendance.
D'accord, mais alors pourquoi seulement maintenant ?
Seulement maintenant parce qu'on a... En fait, il y a déjà eu de l'audio à l'AFP. En fait, c'est ça qui est intéressant de rappeler, c'est qu'on a déjà, dans les années 80-90, fait des piges, notamment pour des radios à l'époque surtout. Et puis c'est des produits, entre guillemets, qui se sont avérés peut-être très rentables, qu'on a arrêtés. Et aujourd'hui, avec le boom du podcast et de la variété des usages audio, on se repose la question dans un nouveau contexte de marché pour relancer ces nouveaux sujets.
Mais c'est à destination... Pardon, je vais y arriver. C'est à destination de qui ? C'est des particuliers ou des médias eux-mêmes ?
Alors, la spécificité de 2020, de ce premier projet de podcast hebdomadaire, c'est que c'est en accès direct, ce qui est un petit peu orthogonal pour l'AFP. Mais en réalité, ça a plusieurs justifications. Ça nous permet d'explorer, d'apprendre beaucoup. Alors, c'est pas juste une expérimentation, c'est un super projet très abouti au standard de qualité de l'AFP, mais ça nous permet aussi d'apprendre en faisant, d'apprendre du format pour les journalistes qui travaillent dessus, d'apprendre de la distribution du podcast pour les gens comme moi qui regardent un petit peu le marché et comment ça se passe, d'aller à la rencontre aussi d'acteurs de start-up comme la société Ocha qui héberge notre podcast depuis peu de temps, qui est une boîte française basée à Lille. Donc, ça nous permet aussi de rencontrer tous ces gens-là, d'apprendre plein de choses, édito, commercial, marketing, distribution.
J'adore apprendre des nouveaux marketing. Ça veut dire quoi dans le langage marketing orthogonal ?
Ça veut dire que par rapport à la position de l'AFP et à l'identité de l'AFP qui est de fournir de l'information à ses clients qui sont des médias, avoir une petite partie de ses contenus de temps en temps qui sont exposés de manière directe au public, ça participe pour l'AFP de d'exposer sa marque, de montrer que on a une super couverture de l'actualité aux États-Unis, qu'on a des super photos qu'on peut mettre parfois sur Instagram. Voilà, c'est cette logique-là d'aller montrer notre travail au plus grand nombre.
D'accord. Donc ça s'appelle 2020. Vous parlez des États-Unis. Racontez-nous le fond de l'affaire. Qu'est-ce qu'on entend quand on écoute 2020 ?
Alors, à l'origine, 2020, c'était l'année 2020, l'année de la présidentielle américaine. Quand on a pensé le programme, c'est un petit peu le parti pris éditorial des équipes à Washington et avec la coordination à Paris. Entre-temps, il s'est passé le Covid. Et donc, l'épidémie a un peu écrasé, a mis en pause la campagne présidentielle. Ça et le fait qu'au même moment, la primaire démocrate, qui était un peu l'un des premiers fils à tirer dans l'histoire de la présidentielle, s'est un peu arrêtée parce que Biden a gagné le Super Tuesday et Bernie Sanders s'est retiré assez vite. Donc on a perdu d'un côté un des premiers fils de l'histoire de la campagne et l'épidémie est arrivée.
Et puis il y a une deuxième actualité qui a écrasé tout. Le dernier épisode de 2020, c'est le 20e, c'est un hasard, est consacré à Marion Gray Hopkins. Qui est-elle ? Son fils Gary avait 19 ans en 99 lorsqu'il a été tué par la police en rentrant de soirée. Et depuis, elle se bat contre les violences policières. Évidemment, plane sur cette affaire la mort de George Floyd qui nous ramène 20 ans en arrière.
Gary was a fun-loving kid. Gary was loved by everyone. He was very, very humorous. Gary was a up-and-coming rapper.
L'extrait est très court parce que c'est en anglais. Le type qu'on entend rapper, c'est justement le fils de Marion Gray Hopkins qui parle de son fils, jeune rappeur en devenir, aimé de tous, dit-elle. Pourquoi avoir fait le choix de ne pas traduire ?
Alors, on a diffusé cette interview en deux langues. C'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Le podcast est en français chaque semaine. Mm-hmm. Simplement, cet épisode, on s'est dit que entendre la voix de cette maman dans sa langue maternelle était hyper intéressant et participer un peu de l'émotion autour de cette interview. Alors, c'est pas qu'un sujet d'émotion, c'est un sujet de fond, mais il y a de l'émotion dans la voix.
Donc, je veux dire par là, parce que vous vous intéressez au marketing, que ça réduit considérablement votre cible, parce qu'il faut être fluent English.
Alors, tout à fait, mais on a plutôt vu dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on a diffusé en premier le podcast en langue française, donc avec une interview doublée. Très rapidement, dans la même journée, on a rediffusé un épisode un petit peu à part par rapport à 2020 qui est en langue anglaise.
Alors, on vient d'entendre un témoignage, mais également du reportage, comme dans l'épisode précédent, au cœur d'une manifestation Black Lives Matter, on est devant la Maison Blanche.
Il est 18h20 et le couvre-feu débute dans 40 minutes. Il y a de plus en plus de monde devant la Maison Blanche. Les manifestants disent qu'ils sont pacifiques.
Et là, les manifestants sont en train de courir. En fait, les policiers sont en train de charger. Et il y a des... Oh là là, mais il y a des... Ça y est, ils sont en train de charger.
Ah oui, c'est pas le podcast qui est fait depuis une chambre de bonne ou en studio. Là, on est vraiment au cœur de l'action. C'est un podcast qui est porté par un journaliste à Washington, installé à Washington. Il s'appelle
Antoine Boyer. Ouais. Il était journaliste à l'AFP avant ce podcast-là. Il avait déjà fait des premiers épisodes qui s'appelaient Fragments d'Amérique. Alors, c'était sur un rythme mensuel, c'était un petit peu différent, c'était un petit peu plus making-of, coulisses. Alors, évidemment, je cite son nom, il le fait pas tout seul, il le fait avec d'autres collègues.
Ah, vous savez quoi? On va les entendre justement. Écoutez, il y a beaucoup de contributions.
Un grand merci à Laura Hakoun, Salima Belhadj, Lucie Aubourg, Brigitte Dussault, Hervé Rouache, Laurent Nicolas, Colin Salois, Lucas Jvoptaler et Michaela Cancela-Kiefer, ainsi qu'aux équipes des réseaux sociaux et de la vidéo de l'AFP.
Il y a besoin de tant de personnes pour votre podcast. Qui sont tous ces gens?
Alors, la réalité, c'est que la production de l'épisode repose beaucoup sur les épaules d'Antoine Boyer, qui est la seule personne dans l'équipe qui est dédiée à temps plein à ce projet-là. Après, il se fait évidemment beaucoup aider par ses collègues, par le bureau de Washington notamment, qui valide les sujets avec lui, valide les angles. Et puis, il est aussi beaucoup aidé par ses collègues de la photo, du texte, de la vidéo à Washington pour les traductions, pour parfois partager des sources. Voilà, c'est un travail à la fois collectif, mais qui est beaucoup porté par Antoine, qui fait un énorme boulot chaque semaine.
Et c'est là où on voit la force de l'AFP à cause de son réseau. Pourquoi vous avez choisi le thème de la présidentielle américaine, justement pour ce premier podcast? Parce que c'est un sujet rassembleur international, c'est la plus grosse actu mondiale, si j'ose dire.
On sait en général que tous les 4 ans, c'est un sujet qui va faire parler dans le monde entier. L'élection d'un président américain, ça a des impacts sur, si on prend le cas de la France, sur les relations diplomatiques que la France et l'Union européenne, au sens large, vont avoir avec les États-Unis. Ça a des impacts commerciaux, je ne vous raconte pas ce qui se passe avec la Chine en ce moment. Donc voilà, ça a des impacts partout, et ça tombe bien, nous on est partout. Donc quand on fait un épisode juste avant ceux que vous avez passé sur la situation comparée en Chine pendant l'épidémie, où on a le chef du bureau de Pékin qui participe à l'épisode, c'est aussi ça la force de l'AFP, de pouvoir mobiliser son réseau pour, en partant d'un point de départ qui est celui de l'actualité vue depuis Washington.
Il y a une chose dont on n'a pas parlé évidemment, c'est le modèle économique, puisque tout ceci est gratuit. Donc comment vous faites pour vous y retrouver? On va l'entendre.
Dans l'infomédia du jour, on parle de l'agence France Presse et du déploiement de sa stratégie audio et podcast. On y revient dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Attentive à l'évolution des usages des contenus audio de ses clients, l'AFP explore le format podcast et présente son premier podcast. On en parle ce matin dans Culture Média, Philippe, avec notre invité Laurent Nicolas, responsable marketing en charge des contenus audio de l'AFP.
On parle de premier podcast, mais est-ce qu'il y en aura un deuxième ou est-ce que ce podcast 2020 est un coup d'essai?
Alors, c'est un coup d'essai.
Ou un one-shot?
Alors, c'est ni l'un ni l'autre. C'est que, on le considère pas comme un one shot. On n'exclut pas d'avoir d'autres programmes. Simplement, c'est pas une finalité pour l'agence de continuer à avoir une bibliothèque de podcasts en accès direct. Pour en faire d'autres, il faudrait réunir plusieurs conditions. Il faudrait qu'il y ait un intérêt à traiter un sujet en audio versus le faire en texte, en vidéo, en photo. Il faudrait qu'évidemment il y ait une valeur ajoutée de l'AFP à traiter un sujet par rapport à d'autres médias. Ouais. Et puis il faut évidemment des conditions économiques. Est-ce que le podcast est rentable? C'est pas parce que c'est un format qui est innovant et un peu alléchant qu'on peut se permettre de faire du podcast à perte pendant des années. Donc il y a aussi ces paramètres-là qui rentrent en ligne de compte pour continuer à faire de futurs podcasts.
Parce que je le rappelle, c'est gratuit et vous produisez déjà du contenu gratuit sur Internet. Vous avez une chaîne YouTube qui compte plus de 640 000 abonnés. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette chaîne et quel est son but? Mais d'abord, qu'est-ce qu'on y trouve?
On y trouve tous les jours des formats essentiellement courts, pas uniquement, mais plutôt des formats assez courts. Par exemple, hier, on avait des images prises au Mexique pendant le tremblement de terre où on voit les gens dans la rue un petit peu paniqués, qui regardent les feuilles d'arbres qui commencent à bouger. On a ce genre de choses, un petit peu hard news, comme on dit, des choses chaudes, de l'actualité chaude. On peut avoir aussi des éléments un petit peu plus reportage, un petit peu plus monté, ce qui est plus rare pour l'AFP, qui fournit plutôt des choses brutes d'habitude. Donc voilà, on expérimente, en vidéo d'ailleurs comme en audio, on expérimente des formats qui sont ceux que nos clients médias développent eux aussi pour toucher des audiences plus jeunes sur des canaux numériques. Et donc, en faisant ça, on apprend des enjeux de médias comme Europe 1, comme les chaînes de télé, etc.
Mais est-ce que les vidéos qu'on voit sur votre chaîne YouTube sont les mêmes que celles que vous vendez aux chaînes ?
Alors, dans les vidéos qu'on voit sur la chaîne YouTube, il peut y avoir des images qui sont aussi réutilisées dans certains produits vendus par l'AFP. Simplement, la production commercialisée par l'AFP en vidéo est essentiellement des choses qui sont différentes.
J'espère, parce que sinon le patron de chaîne qui paye pour avoir un contenu évidemment. Qu'il peut trouver gratuitement sur YouTube, il se sent un peu floué.
C'est évidemment pas le but, et en réalité, il n'y a pas de pivot stratégique de l'AFP de volonté d'aller directement au contact de ses audiences. On a vocation à rester dans notre rôle d'agence, simplement pour, encore une fois, travailler un petit peu la notoriété de nos métiers dans toutes les lignes, soit texte, photo, vidéo et maintenant audio. On a vocation, de temps en temps, montrer une petite partie de notre travail en accès direct. Mais ça reste des exceptions.
Et de la même façon, il y a un compte Instagram AFP Photo, 603 000 abonnés. Là aussi, ce sont des images que vous vendez ou pas à des rédactions ?
Alors, c'est un bon exemple parce que la photo qu'on va mettre sur Instagram, on va la mettre pour... Alors, évidemment, parce qu'il y a un lien avec une actu forte, on la publie sur Instagram le jour où elle est en écho avec une actualité très forte. Mais on va aussi la choisir pour des critères esthétiques. Peut-être qu'on va mettre beaucoup en avant des photos qui ont eu des prix. Vous savez, tous les ans, il y a des prix décernés aux photos de presse, pas uniquement aux photos de presse. Mais... Donc voilà, on va faire un peu ce choix-là. La ligne éditoriale du compte Instagram de l'AFP n'est pas la ligne éditoriale de la production photo intégrale de l'AFP. Et donc, c'est aussi un travail un peu de notoriété et d'exposition de la qualité de la production photo de l'AFP.
Et si j'ai bien informé, sur votre compte Insta, elle est en plus basse résolution que ce que vous vendez aux journaux.
Oui, c'est ça. C'est que le but, ce n'est pas de distribuer gratuitement des choses qu'on vend par ailleurs. Ouais. Le but, c'est vraiment de montrer, d'ouvrir une petite fenêtre au grand public sur le reste du travail de l'agence. L'essentiel, l'immense volume de production qui est vendu tous les jours est l'effet en très haute résolution, dans plein de formats différents, pour des usages professionnels que font les médias tous les jours.
Vous parlez de la qualité technique, et vous en avez parlé tout à l'heure d'un mot. Vous avez développé votre offre podcast, je reviens au son, avec Ocha. C'est quoi Ocha ? Ça s'écrit A-U-C-H-A.
A-U-S-H-A.
Et non, S-H-A, pardon, et non pas comme je donne à manger Ocha. Qu'est-ce que c'est Ocha ? A-O-U-S-H-A.
C'est ça. C'est une entreprise assez récente, française, qui est basée à Lille. C'est vraiment des passionnés du son et des contenus audio en général. Donc, ce qu'ils proposent sur le marché, c'est d'héberger votre podcast et de fournir différents services autour de cet hébergement. Et donc, nous, historiquement, les premiers projets audio de l'agence étaient hébergés un petit peu, pour des raisons historiques, sur une plateforme qui s'appelle SoundCloud, qui est très connue des musiciens, qui est un très gros acteur de l'hébergement de la musique en ligne. Et donc, on avait nos premiers projets audio sur cette plateforme-là. SoundCloud, ça reste très bien pour le podcast, mais on voulait des usages un petit peu différents, notamment sur le suivi des statistiques d'écoute. Et donc, on a fait le choix d'Ocha, qui est une super boîte, qui est en croissance, qui est française, ce qui est aussi important. Ce n'est pas le seul critère, mais c'est important pour l'AFP.
Justement, vous parlez de statistiques d'écoute, parlez de notoriété. À quoi ça sert de diffuser pour vous du contenu gratuit, que ce soit audio, photo ou vidéo, alors que votre modèle économique, c'est de vendre votre travail à des rédactions ?
En fait, vous le dites un petit peu dans votre question. La raison pour laquelle on le fait, c'est surtout des sujets de montrer notre travail au plus grand nombre. Et il pourrait se trouver que dans ce plus grand nombre, il y ait des décideurs d'entreprises médias à l'étranger. Le compte Instagram, les légendes du compte Instagram sont en anglais, par exemple. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas encore clients de l'AFP, des médias à l'étranger, qui verraient nos photos, qui se diraient « Tiens,
dites donc, ça fait beaucoup de déperdition, parce que si vous avez 603 000 abonnés en espérant draguer un patron de presse, ça fait quand même tout ça pour ça. »
Je schématise, c'est pas uniquement le but, mais voilà, ça participe de la notoriété et un peu de la promotion du travail de l'agence. Et puis voilà, c'est aussi c'est la même logique que pour l'audio et la vidéo. C'est que, encore une fois, aller au contact direct des audiences, comme le font nos clients médias, ça nous permet de mieux nous mettre dans leur pompe, de mieux comprendre leurs enjeux et de mieux les servir in fine.
Vous pourriez créer une sorte de banque audio pour les médias, comme vous avez une banque de photos et une banque de vidéos ?
Alors, c'est pas des choses qui sont tranchées, on y réfléchit. Ça ferait sens pour l'AFP, encore une fois, dans son rôle d'intermédiaire, de fournisseur de matière brute, plutôt que de faire à la volée plein de podcasts en accès direct, mais plutôt de fournir de l'audio à l'industrie, aux médias. C'est pas simple, c'est pas hyper évident à construire comme offre. Simplement, les usages de nos clients des contenus audio explosent, et pas que les radios, pas que Europe 1, tout le monde fait du podcast et des contenus d'information audio. Donc demain, ces gens qui font de l'audio pourraient avoir besoin d'une interview prise en Corée du Nord, parce que nous, on est en Corée du Nord.
Ah oui.
d'un son de manifestation à Hong Kong, parce qu'on a couvert les manifestations à Hong Kong de manière vraiment remarquable toute l'année. Donc voilà, c'est des choses qui sont peut-être pas faciles à récupérer pour des gens qui font de l'audio à Paris ou ailleurs dans le monde.
Merci beaucoup Laurent Nicolas, responsable marketing en charge des contenus audio à l'AFP. Donc je rappelle, 2020, c'est le premier podcast hebdomadaire de l'agence France Presse. Et merci d'avoir été avec nous, venu faire du son ici sur Europe 1. Merci encore.
Merci à vous.
Notre prochaine invitée est Marie-Sophie Lacarou. Elle présente ce soir sur France 2 100 ans de comédie musicale, les stars chantent pour le Sidaction. Et on en parle avec elle dans un instant sur Europe.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Marie-Sophie Lacarou.
Bonjour Marie-Sophie Lacarou.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à distance, que vous avez beaucoup, beaucoup de travail. Vous êtes d'abord la présentatrice des journaux de 13h sur France 2. J'imagine que je vous préparais le 13h, mais vous avez une double actualité.
Oui, je sors de la conférence de rédaction.
Vous venez pour les 100 ans des comédies musicales, plus le Sidaction, ce sera ce soir sur France 2. Je dis une double actualité, car le Sidaction, en tant que tel, n'a pas eu lieu cette année. Un virus, si j'ose dire, a éclipsé l'autre. Donc, ce soir à l'antenne, que va-t-on voir ?
Alors, ce soir à l'antenne, en fait, c'est une mobilisation de France Télévisions pour soutenir le Sidaction. Le Sidaction qui a effectivement annulé sa grande opération de collecte de fonds. L'année dernière, ils avaient pu récolter 4,5 millions d'euros. Cette année, ils ne le feront pas. Donc, nous avions enregistré cette émission avant l'épidémie. Mmh. Et France Télévisions a souhaité malgré tout la programmer pour soutenir le Sidaction, pour appeler aux dons. Et donc, on propose un très, très grand spectacle, vraiment, avec des tableaux complètement dingue, spécialement créé pour cet événement-là. 100 ans de comédie musicale, il y aura des artistes qui vont chanter, qui vont danser, qui vont se produire sur scène. Et en même temps, moi, je serai dans les coulisses et je discuterai avec eux avant et après qu'ils montent sur scène. Donc des échanges et du beau spectacle.
Juste un mot avant qu'on parle du programme, parce que j'ai vu l'émission. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Vous dites avoir tourné avant le confinement, mais il n'y a personne dans la salle. Il n'y avait pas de public, comment ?
Alors oui, effectivement, on était quelques jours avant le début du confinement et donc on était déjà dans ce souci de limiter les contacts. Donc la décision avait déjà été prise de tourner cette émission sans public. On était déjà dans un pré-confinement. On avait anticipé les mesures, en fait.
Alors, les 100 ans des comédies musicales, le modèle, c'était un peu les émissions de Gilbert et Maritier Carpentier. Mmh. Comment est construite l'émission ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Quelle comédie musicale on va voir ? Après, on donnera une partie de la liste des artistes parce qu'il y a pléthore.
Ah oui, il y a vraiment pléthore. C'est toutes les grandes comédies musicales. Parfois, elles seront, donc, des titres phares, évidemment, qui seront repris soit par leurs interprètes d'origine, soit repris, par d'autres. Et vraiment, ce qui va être, assez grandiose, voilà, c'est que c'est vraiment des chorégraphies et des mises en scène qui ont été spécialement pensées pour cette soirée-là. Donc il y a une lumière particulière, une ambiance particulière, avec des shows donc que l'on n'a jamais vus. On connaît les chansons, mais pas comme on va vous les montrer ce soir.
Il y aura des tableaux revisités de West Side Story, Notre-Dame de Paris, New York, Roméo et Juliette, Moulin Rouge, Mozart, l'Opéra Rock, Cats, Hello Dolly, Chicago, Les Dix Commandements. Il y a des invités, pour me donner la liste ou vous voulez que je les dise ?
Alors je vais vous en dire quelques-uns,
voilà.
Mais je vais forcément en oublier.
Moi,
allez, on fait ça, on complète, on le fait à deux.
Allez-y.
Super, ça me va. Alors Patrick Bruel sera là, il y aura Maël, Vincent Niclot, Nicole Croisille, les danseuses du Moulin Rouge, la troupe du Paradis Latin, Véronique Dicker sera là aussi, Marina Kay, Ariel Dombal, Elodie Frégé.
Vous avez dit presque tout le monde, il reste que Chimène Badi, Jean-Paul Gauthier, Kamel Wally, Angoune, Bilal Hassani, Augustine Galliana. L'émission commence par New York, New York, repris par Vincent Niclot. Il est accompagné des danseuses du Moulin Rouge, je préviens tout le monde, elles sont habillées. Céline Renaud qui annonce le programme et puis elle vous invite à la rejoindre sur scène et je vous laisse écouter la suite.
Bonsoir à tous les deux, bonsoir aux danseuses du Moulin Rouge. C'est un honneur pour moi d'être près de vous ce soir et de servir cette cause, oui, qui me tient aussi très à cœur. Toute la soirée, je serai en coulisses, aux côtés des artistes, pour soutenir votre combat, Lynn, qui est aussi le nôtre. Et puis, on s'autorisera aussi un petit peu de légèreté pour évoquer leurs plus beaux souvenirs de comédie musicale.
Maintenant, passez tous une très bonne soirée, mais surtout, surtout, n'oubliez pas de faire le 110. Merci d'avance.
Je veux dire, ce qui m'a frappé dans cet extrait, c'est qu'on est à 5 minutes d'émission. On demande d'appeler le 110, mais à aucun moment ne sont prononcés les mots sida ou sidaction ou maladie. Pour quelle raison ?
Ah ! Alors, ça ne m'avait pas.
Eh ben, vous verrez le montage. Peut-être que vous n'avez pas vu le montage final. Moi, je l'ai vu, ça m'a vraiment frappé.
Alors, je sais qu'il y a Ah oui, alors il y a souvent un pré-générique, comme on dit dans notre jargon, et peut-être que c'est à ce moment-là que j'interviens et que j'explique le contexte.
Je ne vais évidemment pas vous faire un faux procès, puisqu'ensuite vous le dites, et à maintes et maintes reprises. J'ai adoré la séquence avec Véronique Dicker, imitatrice, qui imite Céline Dion. Non seulement elle imite Céline Dion, ça vous fait même marrer déjà, en chantant, mais elle imite également pour l'appel au don. Écoutez.
Alors les champions, les championnes, c'est très important. Vous devez faire le 110. Ça, le 110, c'est le nombre de chaussures que j'ai quand je voyage. Alors, mesdames et messieurs, très important, et aussi aller sur le site action.org, c'est super important. Donnez, soyez généreux. Come on. Je vous aime.
Et là, je veux dire que c'est assez impressionnant.
Alors, mais oui, il y a plein de moments comme ça.
Et vous passez des images d'archives. Alors, parmi les jeunes artistes, il y a la chanteuse Maëlle qui reprend le blues du Businessman. C'est vraiment pas mal. Mais au bout d'une heure d'émission, il y a une archive et il y a la même chanson par Céline Dion. Et là, franchement, elle met toute la profession par terre. C'est juste très, très impressionnant. Vous avez dit oui tout de suite pour cette émission ?
Ah oui, oui, oui. Tout de suite, tout de suite. J'avais déjà participé l'année dernière au Cid Action. Alors, d'une autre manière, pas directement sur scène avec Lynn, mais d'une autre manière. Et oui, bien sûr, j'ai dit oui. Oui, j'ai dit oui tout de suite. C'est un combat qu'il ne faut pas oublier.
Et nous aussi, quand on nous a proposé Marie-Sophie Lacaro, on a dit oui tout de suite. Vous restez avec nous. On a encore plein de questions et d'extraits à vous faire entendre.
À l'occasion de la 27e édition du Cid Action, France 2 propose une soirée spéciale autour des grandes comédies musicales. On continue à en parler avec notre invité qui présente cette grande soirée. Et Marie-Sophie Lacaro dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
21h05, ce soir sur France 2, soirée exceptionnelle où on célèbre les grandes comédies musicales avec de nombreux artistes au profit du Cid Action. Soirée présidée par Lynn Renaud et présentée par Marie-Sophie Lacaro qui est notre invitée ce matin, Philippe.
Et alors à la fin de l'émission, Lynn Renaud, la présidente, lance un message assez fort et indispensable à propos du sida.
Chaque année, à la veille de Cid Action, vous n'imaginez pas mon trac. Et plus encore cette année, je me dis, comment je vais leur dire où nous en sommes, vous dire la vérité surtout. Ensemble, dans ce combat, nous avons partagé des hauts et des bas, des victoires, mais aussi des découragements. Alors ce soir, je vous le dis, en toute sincérité, la lutte contre le sida est un navire qui tangue. Il tangue parce qu'une certaine opinion publique laisse entendre que cette guerre menée depuis 35 ans serait gagnée. Ça y est, on guérit du virus du sida, alors plus besoin de se protéger, plus besoin de se faire dépister. Pourtant, rien n'est plus faux.
Rien n'est plus faux. Et c'est vrai que pendant le confinement... Oui, allez-y, Marie-Sophie.
C'était bouleversant quand Lina a prononcé son discours de fin, vraiment. Au moment de l'enregistrement, je peux vous dire que voilà, on était tous très, très émus et bouleversés par ces mots. Voilà. Et là, je ressens la même chose.
Et à voir, on l'est également. Mais c'est vrai que pendant le confinement, on n'a plus du tout parlé du sida, comme si le problème était réglé. Alors, Lynn Renaud parle de dire la vérité. Vous êtes journaliste, Marie-Sophie, et quand on écoute l'émission, on a l'impression qu'il y a des infos qui sont escamotées ou passées sous silence. Je vais citer une sommité mondiale qui est Willy Rosenbaum, c'est le co-découvreur du virus du sida, ancien président du Conseil national du sida. Voilà pour les références. Maintenant, l'info. En France, le sida n'a pas disparu, Lynn Renaud a raison. Il touche principalement les hommes homosexuels à 40% et à 40% les populations étrangères, notamment les migrants d'Afrique subsaharienne. C'est considérable. Ce sont les deux principales populations à risque. Pourquoi vous n'en dites pas un mot en 2h30 d'émission? Pourquoi les populations à risque ne sont pas ciblées dans l'émission?
Parce qu'effectivement, la parole est beaucoup aux artistes dans cette soirée. Et c'est souvent eux, dans ce programme, que l'on entend nous parler du sida. Et c'est vrai qu'on a beaucoup voulu insister sur le fait qu'aujourd'hui en France, un autre chiffre, voilà, c'est 6200 personnes qui continuent de découvrir leur séropositivité chaque année dans notre pays. Et c'est ce chiffre, effectivement, qu'on a peut-être davantage mis en avant. Il n'y a eu aucune volonté d'étouffer une information.
Ou alors c'est le politiquement correct pour ne stigmatiser personne, comme on dit.
On n'a pas été dans ces calculs-là. L'idée, c'était vraiment de rappeler qu'il fallait surtout donner pour soutenir la recherche, les associations, etc. Et redire encore qu'on ne guérit toujours pas du sida, que l'on soit blanc, noir. Voilà.
Ou quelle que soit son orientation sexuelle.
Exactement.
L'émission dure 2h30, 2h25 exactement. Vous savez pourquoi elle est si longue ?
Parce que ça mérite.
Je vais vous dire, j'ai regardé le programme télé. Je vais expliquer aux gens comment ça marche. L'émission va se terminer ce soir à 23h35. En face, sur TF1, vous aurez Taxi 2 qui finit à 22h50. Sur la 3, une fiction qui finit à 22h35. Sur France 5, Venise, ça termine à 22h30. Et M6, This Is Us, ça termine à 22h40. Et donc, vous serez les derniers. Et donc, en part de marché, c'est vous qui allez l'emporter.
Ah, mais ça c'est de la programmation, c'est pas ma partie.
Bah exactement, c'est pour ça que je vous le demande. Je vais parler de vous, Marie-Sophie Lacaro. En ce moment, vous avez le vent en poupe. Vous avez présenté un autre prime time sur France 2. C'était la grande soirée des Molières avant-hier. Tout avait été enregistré la semaine dernière au Théâtre du Châtelet, notamment totalement vide, à part quelques comédiens. On va entendre votre lancement dans un silence de cathédrale, allez, d'église. En tout cas, ça résonne, on entend qu'il n'y a pas de public.
Bienvenue dans la 32e cérémonie des Molières. Une cérémonie un peu particulière cette année à cause d'un certain virus dont je ne citerai pas le nom. Mais ce soir, c'est la fête du théâtre. On va le célébrer. Alors certes, je ne suis pas Nicolas Bedos, je ne suis pas Alex Lutz, je ne suis pas Zabou, je ne suis pas non plus Alex Vizorek, bref. Je ne suis pas comédienne, encore que j'étais quand même pas mal dans mes spectacles de fin d'année à l'école.
Vous étiez comment dans les spectacles de fin d'année à l'école ?
J'étais pas mal, franchement,
vous
sérieux. Un costume, un peu de maquillage et j'aimais beaucoup danser. Enfin, j'ai toujours aimé beaucoup danser, j'ai fait beaucoup de danse. Oui, voilà, donc j'étais pas mal.
Et j'aime beaucoup la phrase.
Oui, c'est vrai que ça sonne.
Et j'aime beaucoup la phrase « je ne suis pas à bout », qui peut s'entendre de plusieurs manières différentes.
J'adore ce que vous allez trouver toujours.
Oui, voilà. Il n'y avait personne dans la salle à cause du confinement, je l'ai dit. Et vous-même, vous avez été plus ou moins touché par le coronavirus. Le 17 mars dernier, donc le lendemain du confinement total décidé par l'exécutif, vous avez cédé votre place au JT de 13h de France 2 à Jean-Baptiste Marteau, qui est votre joker. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
J'ai eu une suspicion de cas de Covid dans mon entourage. Et donc voilà, c'était le début de cette épidémie. Par mesure de précaution, on m'a tout de suite écartée pour éviter toute contamination.
Vous avez
j'ai été placée en quarantaine et je ne l'ai pas eue.
Voilà. Et vous étiez avec les enfants ou pas? Ils l'ont eue? Personne n'a
non,
rien
ils
eu.
L'ont pas eu.
Vous êtes revenu à l'antenne deux semaines plus tard, donc le lundi 30 mars, tout va bien maintenant, mais ça a généré un article de Voici qui a suivi ce 13h de votre tour. Vous l'avez lu ou pas? Je peux vous dire qu'ils vous suivent. Écoutez bien ce qu'écrit Voici, c'est ça la grande presse.
Allez-y.
Tout au long de son journal, Marie-Sophie Lacaro ne fera pas allusion à son absence, pas un mot sur son état de santé ou les raisons exactes de son confinement. Décidément, les téléspectateurs de France 2 ont de quoi être déboussolés pendant le confinement.
Pardon.
Voilà.
Non, je vois pas où tout ça les aura déboussolés.
Jean-Pierre Pernaut non plus n'était pas là. Voilà. Jean-Pierre Pernaut n'était pas là. Quand vous êtes arrivé au trésor de France 2, il y a trois saisons, vous avez réussi à grappiller un point. Jean-Pierre Pernaut, vous en êtes où? Vous en êtes où? Vous continuez à gratter des parts de marché ou pas? Vous en êtes où?
Oui, on gratte toujours. Et là, je viens d'apprendre par les services des audiences, enfin ceux qui observent tout ça, que pour la première fois, l'écart entre les deux journaux, de TF1 et France 2, pour le 13h, est passé sous la barre des 20. C'est la toute première fois. Donc, on est très contents. Évidemment, l'écart reste considérable.
La barre des 20, c'est quand même prodigieux. Ils ont 20 points d'avance sur vous.
Mais oui, c'est considérable. On est d'accord. On va pas nier ça. Mais pour la première fois, nous sommes passés sous la barre des 20. Voilà.
Merci beaucoup. Marie-Sophie Lacaro, je le rappelle, les 100 ans des comédies musicales et le site d'action en même temps, ça sera ce soir sur France 2. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, merci à vous.
Culture Média qui continue avec dans quelques instants le journal de la culture et puis notre invité Elise Moon. Il signe la réalisation de son premier film, c'est Duc Ubu 3. Le DVD est sorti hier. Évidemment, le film, je vous l'indique, est à nouveau disponible en salle depuis lundi. Il y aura son portrait inattendu par Hélène Manarino. Et puis dans les indispensables de la musique, on a retrouvé un incunable de Neil Young, sorti en 75. Angèle Châtelier nous dira pourquoi il sort maintenant. Et puis une série à voir, ça s'appelle Space Force, une satire du projet de Trump d'aller conquérir la Lune. C'est Clémence Olivier qui a décollé dans les fusées de Netflix. Mais d'abord, le journal de la culture, juste après ça.